Bonsoir, province de l'Équateur. Le nouveau gouverneur promet de relever certains défis auxquels la province est confrontée, notamment l'approvisionnement de la population en eau et en électricité, ainsi que la réhabilitation des routes. Comment analysez-vous les priorités du nouveau gouvernement provincial de l'Équateur? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mardi 6 août 2013. Je reçois dans cette émission pour le débat Louis-Alphonse Kouya Gallo, gouverneur de la province de l'Équateur. Monsieur le gouverneur, bonsoir. La réalisation me signale qu'on a un petit souci avec la ligne du gouverneur. On va essayer de le retrouver. Alexis Lenga, député national de l'opposition et cadre du parti politique MLC. Monsieur Lenga, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Maître Gilbert Kiatingé, expert en décentralisation. Maître Gilbert, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Merci, chers auditeurs, parce que vous êtes très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de José depuis le KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. La déclaration du nouveau gouverneur de l'Équateur ne me surprend pas, parce qu'on connaît la traditionnelle habitude des politiques congolais qui est de promettre sans réaliser. Si toutes les promesses faites par les dirigeants congolais s'est réalisées, le Congo serait 10 fois plus beau qu'aujourd'hui. Camille Ouelepele de Kisangani dans la province orientale. Les problèmes de la province de l'Équateur sont connus et sont les mêmes presque dans toutes les autres provinces. Tous les gouverneurs élus de cette province insistent sur les mêmes priorités sans qu'il y ait des solutions palpables. Il est temps de passer à la pratique et de rompre avec des programmations solennelle et sensationnelle. Merci de nous suivre en Mbandaka dans la province et l'Équateur. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Le nouveau gouverneur de l'Équateur fixe l'opinion sur les priorités de son action. Louis-Alphonse Kouya Gallo a pour urgence l'approvisionnement en eau et électricité, ainsi que la réhabilitation des routes. Annonce faite dimanche par Louis-Alphonse Kouya Gallo à l'issue d'un culte d'action des grâces organisé pour implorer que Dieu accompagne le nouveau gouvernement provincial. On écoute le gouverneur Kouya Gallo au micro de Henri Lobondo.
C'est un mandat qui va jusqu'aux prochaines élections. Mais j'ai dit que j'ai identifié les problèmes. Ils sont nombreux et ils sont tous prioritaires. Mais parmi plusieurs priorités, il faut savoir choisir parce qu'on n'a pas tous les moyens. Il faut choisir des priorités jugées urgentes. Et quand j'ai dit qu'il y a des priorités urgentes, je commence par la ville de Mbandaka, qui est le chef-lieu de notre province. Une ville qui dort dans le noir et qui se réveille sans eau dans les robinets. Pour moi, c'est une priorité. Cela est vrai aussi pour toute la population. Ensuite, dans l'ensemble de la province, il faut regarder l'état des routes dans un état de délabrement inqualifiable. Et puis ensuite, il faut ressusciter, réveiller les grandes unités de production qui dorment et enfin mettre la population au travail.
Monsieur le gouverneur, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on vient de vous suivre, monsieur le gouverneur. Vous avez énuméré les priorités urgentes, que vous considérez urgentes. Il y a l'approvisionnement en eau, en électricité, la réhabilitation de routes. Pourquoi pensez-vous que ces priorités que vous avez énumérées sont urgentes?
Elles concernent une grande majorité de la population de l'Équateur. Les rapports de PNUD sur les indices humains de développement le démontrent. Et c'est ce que moi, gouverneur, je vis tous les jours depuis que je suis arrivé dans le chef-lieu de la province. Je suis dans le noir si je n'achète pas du carburant. De l'eau, j'achète de l'eau dans les magasins, ce qui n'est pas normal alors que nous avons une société qui produit et distribue l'électricité, une société qui produit et distribue l'eau représentée dans la province. Et c'est ce que tout le monde vit. Cela est vrai pour le chef-lieu de la province, cela est vrai pour le chef-lieu des districts, cela est vrai pour le chef-lieu du territoire de notre province. Donc pour moi, c'est ce que la grande majorité de la population de l'Équateur vit et je considère ça comme immédiat et urgent.
Alors, monsieur le gouverneur, est-ce que vous pensez avoir le temps...
Je vous écoute.
Oui, je disais, est-ce que vous pensez que vous aurez suffisamment de temps pour réaliser ces trois priorités que vous estimez urgentes avant les prochaines élections provinciales?
Moi, je dis tout simplement que ce qu'il faut faire avec le peu dont on dispose, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre que les prochaines échéances électorales arrivent pour que les nouveaux élus s'attaquent à ces problèmes, et entre-temps, qu'est-ce qu'il faut faire?
Non, mais est-ce que vous aurez le temps de réaliser?
Que je n'ai pas assez de moyens, je ne fais rien, j'attends que les nouveaux élus viennent faire ce qui attend, ce qui est tout à fait irresponsable. Et ce n'est pas pour ça que la population de l'Équateur, que les élus de l'Équateur ont souhaité qu'il y ait un nouveau gouverneur. Ils veulent que le nouveau gouverneur, quels que soient les moyens à sa disposition, prennent les problèmes à bras le corps, et c'est ce que je vais faire.
Mais monsieur le gouverneur, ma question est de savoir si vous aurez suffisamment du temps pour réaliser ces trois priorités urgentes. Approvisionner la province le chef-lieu Mbandaka en eau, en électricité et réhabiliter les routes.
Madame, une chose est de commencer, une autre chose est d'achever. Il faut commencer. Et le plus long chemin du monde commence toujours par le premier pas. Un adage en soi, il dit aussi que la plus grande montagne, la plus haute montagne, commence toujours par le premier pas. Si vous regardez le sommet de la montagne, vous dites qu'elle est très haute, je ne peux pas y aller. Alors, restez en bas. Alors, autant ne pas choisir un gouverneur. Autant ne pas mettre un gouvernement provincial en place. Il faut commencer, et avec le moyen dont on dispose, faire le minimum. Faire le maximum avec le minimum dont elle dispose, madame. C'est ça l'option que j'ai prise avec mon gouvernement.
Alors, comment vous allez vous y prendre, monsieur le gouverneur, pour approvisionner Mbandaka en eau?
Madame, je peux vous dire que pour la ville de Mbandaka, j'y suis déjà de plein pied. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai mis à la disposition de deux entreprises qui représentent notre société de distribution d'eau et d'électricité ici dans la province, j'ai mis de moyens pour acheter deux groupes de 500 kVA chacun en vue de renforcer la capacité de production de la SNEL et la capacité de production de la SNEL. Une fois renforcée, entraîne automatiquement la capacité de production de la régie des eaux. Mais comme mesure intermédiaire, j'ai demandé à ces deux entreprises de faire une sorte de joint venture. La SNEL, à laquelle j'ai donné du carburant et qui n'a pas de groupe. Par contre, la régie des eaux représentée dans la province de l'Équateur, particulièrement dans la ville de Mbandaka, qui a un groupe et qui n'a pas de carburant, je leur ai demandé de mettre leurs moyens ensemble. La SNEL avec le carburant et la régie des eaux avec le groupe. Et ils travaillent ensemble, ils ont commencé à lancer les signaux et ça marche et ça sera renforcé avec les deux coupes qu'on va acheter certainement cette semaine ou bien la semaine prochaine, madame. Et nous aurons ainsi totalisé 1000 kVA. Avec 1000 kVA, nous pouvons donner de l'électricité, nous pouvons également produire et distribuer l'eau, madame.
Alors, monsieur le gouverneur, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Badolité dans la province de l'Équateur.
Je m'appelle Fernand Monzolo, je suis dans la ville de Badolite et dans la province de l'Équateur. L'eau, l'électricité, la réhabilitation des routes, c'est bon. Mais tout ceci est silencieux, c'est les massifs, on se combat avec le clivage ethnique. Non, dites. Dans celui-ci, c'est l'ennemi commun des Équatoriens, qui ne fait pas avancer la province de l'Équateur. Sinon, il sera comme un FPDCC.
Alors, excusez-nous pour la qualité de ce son. Fernand Manzolo de Badolite dit ceci, je vais répéter pour une bonne audition. Il dit l'eau, l'électricité, la réhabilitation des routes, mettre la population au travail, c'est bien. Mais toutes ces priorités réussiront si et seulement si on arrive à combattre le clivage ethnique, car cet ennemi commun des Équatoriens ne fait pas avancer la province de l'Équateur, monsieur le gouverneur.
Il a parfaitement raison, ce correspondant de Bado. Il y a beaucoup de clivage ici, mais nous ne devons pas être pessimistes. Nous sommes là pour rassembler les Équatoriennes et les Équatoriens, leur dire que notre seul ennemi, c'est le sous-développement, c'est l'arriération de la province de l'Équateur sur tous les plans. Et divisés, nous ne pouvons rien réussir. Ce n'est qu'en nous mettant ensemble que nous pouvons réussir quelque chose. Et à mon humble avis, c'est un des critères qui avait milité en faveur de mon élection par les députés provinciaux, parce que, entre autres critères, ils ont voulu qu'il y ait à la tête de cette province un gouverneur qui n'est pas conflictuel, un gouverneur qui est au-dessus des clivages partisans, un gouverneur qui rassemble. Et c'est ce que je vais m'employer à faire. Et je donne parfaitement raison au correspondant de Bado qui vient d'intervenir.
Monsieur le gouverneur, est-ce que ce problème des clivages ne devrait pas figurer parmi les priorités urgentes de la province?
C'est cela, mais ça commence toujours par ça, par la conscientisation. C'est une question vitale et c'est une question de tous les jours. Mais en fait, le clivage, il est tout à fait là, il est présent, il est à tout moment et par la nature même. Mais il ne faut pas que ça soit un obstacle au développement. Ça doit plutôt être une richesse pour la province.
Merci.
Autant de tribus, autant de clans, autant de territoires,
merci,
autant
monsieur
de secteurs doivent constituer plutôt pour nous une ressource pour nous mettre ensemble, pour être unis.
Merci, monsieur le gouverneur. On va vous redonner la parole. Le temps pour moi de passer la parole, de donner la parole à Alexis Lenga, qui est député national de l'opposition et cadre du parti politique MLC. Comment vous analysez ces priorités énumérées par le gouverneur, le nouveau gouverneur de la province de l'Équateur?
Oui, merci madame. Je voudrais bien commencer par des questions préliminaires importantes, parce que tout à l'heure vous avez suivi l'auditeur des Badolités qui a posé un problème sociologique important, très important, et vous savez qu'on ne peut pas faire la politique sans se passer de questions sociologiques. Là, je viens directement au problème de légitimité que le gouverneur a d'abord, parce que vous savez que le gouverneur est élu, c'est une élection de deuxième niveau, c'est-à-dire les grands électeurs. Dès lors que les grands électeurs s'écartent du point de vue de la population qui les a élus, là, il se pose un problème. Et deuxième problème, vous savez, monsieur le gouverneur vient de constituer son gouvernement qui n'a pas respecté les principes constitutionnels. Et l'article 198 de la Constitution, cinquième alinéa, parle bien de 10 ministres provinciaux. Mais le gouverneur vient de constituer un gouvernement de 16 ministres provinciaux.
On va revenir.
C'est un problème très important.
Monsieur Alexis, va revenir sur le gouvernement provincial, la formation de ce gouvernement provincial. Mais parlons d'abord des priorités urgentes du gouverneur.
Oui, merci beaucoup. C'était une question très importante parce qu'il faut que
on
la
va y revenir. Ne vous inquiétez pas.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà ce que j'ai lu dans la lecture faite de monsieur le gouverneur, c'est que il reconnaît que l'indice de développement tel que présenté par PNUD présente un tableau noir. Je vais rapidement rappeler que l'électricité pour l'Équateur, c'est seulement 1% de la population qui bénéficie de l'électricité. Si vous voyez au point de vue indice de pauvreté, la population a 93,6. Donc, 93,6. Une population pauvre de cet indice, c'est grave. De route 43 kilomètres seulement asphaltée, sans compter les routes et désertes agricoles, c'est un défi important. Ne parlons pas des réseaux ferroviaires qui n'existaient pas, si ce n'est que les points, un chantier qui était laissé par les colons depuis longtemps. Les réseaux fluviaux, on ne peut pas comprendre que les affluents navigables de plus de 5 653 kilomètres et qu'aujourd'hui, la province n'a aucun moyen de mettre sur ses rivières pour une circulation. Mais je dois poser la question à monsieur le gouverneur. Parmi autant de priorités, parce que je n'ai cité que quelques exemples, comment cite-t-il, n'est-ce pas, une priorité électricité, l'eau et puis réhabilitation de routes pendant qu'il n'existe pas de routes? Et 1% d'électricité, il ne dit pas comment
Il ne dit pas comment il doit réhabiliter. S'il commence aujourd'hui par dire j'ai acheté des groupes électrogènes.
Il a dit qu'il faut commencer par quelque chose.
Mais écoutez, madame, je dois vous dire très sincèrement que je me suis posé la question, est-ce qu'il faudrait que PPRD, MP, devait se déverser à l'Équateur, une province de l'opposition, pour faire un aveu d'impuissance que, voilà, on a des difficultés, mais il faut commencer quelque part, non, il faut le dire. Lorsque MPPRD s'est déversé à l'Équateur pour obtenir ses postes au gouverneur,
nous disons très bien que... Les députés provinciaux ont élu, ils ont voté pour
madame, le gouverneur. Madame, nous savons de quelle manière ces députés ont été élus. On ne peut pas aller vers un électeur par une intimidation. C'est-à-dire que si vous ne votez pas, Kinshasa ne va pas envoyer de l'argent. Si vous ne votez pas, vous n'aurez pas, n'est-ce pas, de vos indemnités de sortie, ainsi de suite. Non, je dis, madame, que
mais
ça, ce n'est pas une légitimité.
Puisque ces députés, la majorité des députés, c'est qu'ils sont du MLC, M. Alexis Lenga. Est-ce qu'ils étaient obligés de céder à l'intimidation?
Oh oui, c'est une question importante, c'est un problème de personnalité. Vous savez, d'autres gens nous posent des questions. Il faudrait que les députés MLC devaient, pendant tout le temps qu'ils ont occupé pour leur mandat, être encadrés. Mais je dis, madame, que la question, quand on est homme d'État, on n'a pas besoin d'être encadré. On est là, on sait qu'on est élu sur une liste. On a une redevabilité vers cette liste, vers ces partis politiques. Donc, vous regrettez comme moi que un nombre important de députés MLC et de le premier de l'opposition qui devait constituer, qui dépasse même une moitié de la majorité absolue requise pour voter le gouverneur au premier tour, on voit que voilà le 35 députés puissent aller ailleurs. Donc là, il se pose un problème sérieux des personnalités et les comportements des candidats. Voilà.
Vous estimez que les priorités que le gouverneur a énumérées ne sont pas urgentes pour vous?
Écoutez, je venais de passer de vous brosser en grande ligne le tableau précaire social de la province de l'Équateur. Je venais de donner quelques exemples. Tout est priorité. Tout à l'heure, je vous ai posé la question. Qu'est-ce qui indique et qu'est-ce qui exige, n'est-ce pas, au gouvernement de commencer? Voilà, c'est l'électricité, voilà, c'est le route. Mais quand il parle de route, madame, l'Équateur n'est pas seulement un espace géographique émaillé ou bien traversé par des terres. Et là, il parle de nord-équateur, mais sud-équateur. C'est plus, il y a des affluents importants d'eau de navigation. Mais pourquoi parler seulement des routes? Route seulement, la circulation des biens et des personnes ne vise pas seulement la route. Il y a aussi les problèmes des affluents navigables. Mais pourquoi il se limite seulement au problème des routes? Et de quelle manière toutes les routes se sont coupées? Et il dit, voilà, je dois me battre pour les prochaines élections.
Le gouverneur a dit qu'il ne pouvait pas embrasser tout au même moment. Il a choisi ce qu'il estimait prioritaire ou urgente.
Oh madame, je pense que tout est prioritaire parce qu'on ne peut pas parler des routes sans parler de l'agriculture.
On va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa, honorable Alexis Lenga.
Monsieur Blanchard Loama, depuis la ville de Kinshasa. Les priorités du nouveau gouverneur de l'Équateur ne sont pas à négliger, mais l'eau et la réhabilitation des routes, elles ne suffiraient pas pour apporter des solutions aux nombreux problèmes qui préoccupent de plus en plus la population, comme la pauvreté, l'impunité et le chômage, et tant d'autres choses. Moi, je pense que son Excellence, Monsieur le gouverneur, devrait plutôt prendre comme priorité majeure la pêche et l'agriculture, tout en demandant à la population de cultiver les sols et les sous-sols de l'Équateur qui n'ont même pas besoin des engrais chimiques.
Alors l'auditeur a abordé presque dans le même sens que vous. Vous étiez en train de parler de l'agriculture qui était aussi une priorité pour l'Équateur.
Oui, c'est sans l'agriculture qui est, n'est-ce pas, un point important de développement, ne peut pas être isolé par les gouverneurs. Mais je dis qu'il y a un problème politique important. Lorsque vous participez à beaucoup de débats sur les questions de développement de l'Équateur, le premier problème est d'abord politique. C'est pourquoi je reviens sur la question de légitimité, sur la question de respect des droits de droit qui est un principe important de bonne gouvernance. Dès lors qu'on passe outre ce point, vous voyez que, puisque ces problèmes ne sont pas visés en premier plan, monsieur le gouverneur va juste choisir trois points.
Et
je vous ai rappelé tout à l'heure que l'électricité à l'Équateur, c'est 1% de la population qui bénéficie, mais il ne dit pas de quelle manière
il va passer de 1%.
Il ne dit pas de quelle manière il va passer de 1% à 5 ou à 10%.
Brièvement.
Il ne cite que deux groupes électrogènes. Mais il ne pose pas comment le ravitaillement en carburant.
Merci, voilà. Honorable Linga. Maître Gilbert Kiatingé, je rappelle que vous êtes expert en décentralisation. Quelle est votre analyse à vous de ces priorités urgentes énumérées par le nouveau gouverneur de l'Équateur, Louis-Alphonse Kouya Diallo?
Oui, merci beaucoup, madame. Je voudrais d'abord m'acquitter d'un devoir, celui de présenter toutes mes félicitations à monsieur le gouverneur qui vient d'être élu. Vous vous souviendrez que du haut de ce plateau, nous avons plusieurs fois décrié les crises institutionnelles qui ont émaillé la province de l'Équateur. Et un aspect positif dans ce qui vient de se passer, c'est qu'au moins, ces crises institutionnelles sont déjà à leur fin. Et donc, avec l'élection du nouveau gouverneur, la querelle entre assemblée provinciale, gouvernement provincial, les députés de tel coin, d'autres coins, nous sentons quand même qu'on est déjà au-delà de ces clivages-là. Et ça, c'est un aspect positif parce que nous parlons développement. On ne peut pas bâtir le développement d'une province s'il n'y a pas ce climat de cohésion. Je me félicite également de ce gouvernement parce que j'ai comme l'impression qu'il a intégré la donne cohésion. Donc c'est ce que je pourrais qualifier d'un gouvernement de large cohésion nationale et provinciale, si vous me permettez l'expression. Lorsque nous venons analyser le programme du gouvernement provincial, lorsque le gouverneur de province énumère les priorités qu'il qualifie d'urgentes, je voudrais que tout le monde comprenne qu'en fait, il ne fait rien d'autre que s'acquitter d'une obligation constitutionnelle. Parce que l'article 198 de la Constitution, oblige au gouverneur de présenter son programme de gouvernement à l'Assemblée provinciale. C'est lorsque l'Assemblée provinciale approuve ce programme de gouvernement que les ministres sont investis. Et donc, c'est tout à fait normal que le gouverneur de province passe et présente son programme de gouvernement. Sans cela, en tout cas, son gouvernement n'aurait pas été investi. Mais lorsque vous suivez son intervention, madame, j'espère que vous avez constaté avec moi que le gouverneur de province est conscient des défis, de l'énormité des défis à relever dans la province de l'Équateur. C'est selon les données que nous avons, la province, en tout cas, où règne la plus grande pauvreté du pays. Et donc, on ne peut pas demander
au gouverneur... Alors, c'est une province très riche.
Bon, mais en tout cas, sur le plan développement humain, tous les indices, tous les signaux sont rouges. Et je me demande même, lorsque le gouverneur... Heureusement que je comprends que c'est dans le cadre de ses obligations constitutionnelles, c'est un homme de terrain, je sais qu'il va chercher des solutions selon les circonstances qui vont se présenter, mais en tout cas, les défis sont tellement énormes que je ne pense pas, en ce qui me concerne, que les priorités que le gouverneur a du moins données, dégagées, sont vraiment les priorités du peuple de l'Équateur. Nous avons comme l'impression qu'il prend du moins l'image de ce qui se fait au niveau du pouvoir central, c'est-à-dire les priorités au niveau du gouvernement central, il essaie de les transposer au niveau de la province de l'Équateur. Est-ce que la population de l'Équateur qui vit dans une misère noire, est-ce que sa priorité est le courant? Parce qu'on a comme l'impression que le gouverneur veut avoir du courant
chez
lui.
Mais le courant, c'est le moteur, je dirais même, de développement.
J'en conviens, madame, mais comment on peut donner du courant dans une ville où 90% de la population vit dans des maisons en chaume? Donc, qui va payer la facture pour acheter même une ampoule, parce que la population vit, une grande partie de la population de la province de l'Équateur vit avec moins d'un dollar, le revenu de moins d'un dollar par jour. Et vous demandez à cette population-là de considérer que le courant est prioritaire, alors que la plupart, au moins 90%, ne sont même pas sûrs d'acheter
l'industrie, à faire venir les investisseurs et puis développer la province.
J'en conviens, madame, mais on vous a parlé de groupe électrogène. Quelle est cette industrie qui va fonctionner à partir d'un groupe électrogène?
Justement, c'est pourquoi il faut réhabiliter, il faut approvisionner la province en courant électrique.
Justement, mais pas avec des groupes électrogènes. C'est-à-dire que la priorité pour le moment, c'est d'abord de créer des richesses. Le gouverneur devrait voir dans quelle mesure essayer de remonter le niveau de vie de la population pour que cette population qui va consommer les biens qui seront produits par les usines ou les industries. Mais si on va installer des groupes de production, des unités de production, sans qu'il y ait des consommateurs, je ne vois pas cet homme d'affaires qui va aller investir là où il ne va pas récolter de bénéfices. Il faut donc créer des richesses, créer des revenus et chercher à percer, c'est-à-dire consulter la population.
Créer des richesses en faisant quoi?
Ou par exemple, partir de ce qui existe, de l'existant. On sait par exemple qu'une grande partie de la population vit de la pêche. Pourquoi ne pas organiser par exemple le secteur de la pêche, par exemple en créant des coopératives, fédérer les pêcheurs autour de certains idéaux pour que ce secteur-là soit productif de revenus, de sorte que ces gens-là soient en mesure de consommer l'électricité, parce que pour que l'électricité produise des effets positifs, il faut que les consommateurs soient en mesure d'acheter même une ampoule. Mais nous avons une population dont la grande partie ne saura même pas acheter une ampoule. Vous voyez, madame?
Et donc, le programme n'est pas mauvais. Les pêcheurs ne sauront pas évacuer leur marchandise.
Ils évacuent par la voie lacustre, on vous a dit, les affluents du fleuve. Ce n'est pas les routes qu'on utilise à l'Équateur. Par conséquent, je crois que les routes qu'on doit tracer, on devait mettre un accent particulier sur les routes de dessertes agricoles. Parce que pour relier les différents villages où on produit, il y a beaucoup de produits, des champs qui pourrissent parce qu'il n'y a pas de voie d'évacuation. Et donc, lorsque moi je parle de création de richesses, c'est notamment voir quelles sont les entités qui produisent beaucoup et quelles sont les endroits où on peut écouler facilement ces produits, de sorte que on puisse créer par exemple des recettes agricoles là-bas. Là où il y a la pêche, on essaie de voir comment fédérer les pêcheurs et ainsi de suite. Il y a donc un certain nombre de choses, mais je comprends qu'il fallait présenter un programme pour que le gouvernement soit investi.
On va vous donner la parole, maître Katsi, car on va prendre rapidement pour vous cette réaction qui nous vient de Mbujimayi au Kassai oriental.
Sylvain Banza, depuis la ville de Mbujimayi au Kassai oriental. Le gouverneur de l'Équateur est tellement ambitieux, oubliant même que c'est Kinshasa qui décide de la vie de sa province, alors que lui n'est qu'un simple représentant. C'est pour dire que, malgré ses bonnes intentions, il n'aura pas les mains libres pour agir.
Cet auditeur pense que le gouverneur n'aura pas les mains libres pour agir. C'est Kinshasa qui décide à la place du gouverneur des provinces.
Bon, je ne sais pas, il est responsable de ce qu'il dit, mais moi je suis plutôt d'avis avec lui que le développement de l'Équateur va dépendre de la volonté politique au niveau national. Parce qu'aujourd'hui, même si nous parlons de la séparation des compétences, il y a des compétences provinciales, tout ça, mais les textes, il y a un écart entre les textes et la réalité sur le terrain. Il y a des secteurs comme l'agriculture qui ont été définis comme priorité des priorités. Il y a les secteurs comme l'éducation, hein, où on a alloué un budget de plus ou moins 18% au niveau national. Et donc, si au niveau du pouvoir central, on décide d'accompagner le gouverneur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est en même temps représentant du pouvoir central et gouverneur de province, il a une double casquette. Et donc, si au niveau de la politique nationale, on décide de lui donner du tonus, surtout qu'il est la majorité, eh bien, merci. Il y a des choses qu'il peut réaliser.
Merci,
mais si on ne lui tient pas la main, je crois que... Ça restera des vœux pieux.
Kiatingé, parlons justement du gouvernement provincial. Le gouverneur de province, lui, Alphonse Kouagalo, a signé une série d'arrêtés dans ce sens. Il compte 10 ministres et 6 commissaires provinciaux. Ce gouvernement, qui se veut des larges coalitions, regroupe des membres de la majorité et de l'opposition, mais aussi des anciens dignitaires ainsi qu'une nouvelle génération politique. Le porte-parole du gouverneur des provinces a déclaré que c'est pour l'émergence de l'Équateur. Paul-Richard Malengue. Et là, nous en dit plus.
Pour relever les défis du sous-développement de l'Équateur, 10 ministres et faits nouveaux, 6 commissaires provinciaux ainsi qu'un centre d'études stratégiques ont été nommés hier par arrêté du gouverneur. Parmi les nouveaux ministres, on compte 3 députés provinciaux, dont Michel Liélé, en charge de l'intérieur, population, sécurité et ordre public. Quelques membres de l'opposition en font partie, notamment le député MLC David Diaz-Yambo, qui hérite de l'agriculture, pêche, élevage et développement rural. On note aussi la présence des quelques anciens dignitaires de la Deuxième République, publics tels que Dr. Marcel Mpéti à la santé et affaires sociales ou encore Emmanuel Gbaligaza aux finances et budget. L'unique femme de ce gouvernement, c'est Mme Jeannine Otto, en charge du ministère du Genre, Famille et Enfants et porte-parole du gouvernement provincial. Par ailleurs, le gouvernement Kouyagalo comprend aussi 6 commissaires provinciaux, dont Mme Jeanne Ebamba, ancienne ministre nationale des Affaires sociales. Ces commissaires, qui ont rang de ministres provinciaux, auront pour mission d'appuyer l'action du gouvernement provincial, notamment dans les secteurs clés de la décentralisation, les PSP, l'environnement ou encore du plan. Enfin, pour Fabien Munguza, président de la Société civile de la province de l'Équateur, SOCIPEC, la publication de ce nouveau gouvernement dénote le retour à la normalisation. Il se félicite aussi de la présence des membres du MLC pour consolider l'union provinciale. Prochaine étape, l'investiture du nouveau gouvernement par l'Assemblée provinciale actuellement en session extraordinaire. Bandaka, Paul Chamalingué, la Radio Okapi.
Merci Paul Richard Malengela. Monsieur le gouverneur Kouyagalo, vous avez suivi les analyses des uns des autres, de l'honorable Alexis Lenga, de maître Gilbert Kiatingé. On va prendre, je vais parler de l'analyse de l'honorable Alexis qui a insisté sur votre légitimité. Dites-nous, monsieur le gouverneur, avez-vous été mal élu?
Merci madame. Je crois que nos députés provinciaux méritent du respect. C'est les mépriser que de considérer qu'ils ont posé un acte illégitime. Ce sont des grands responsables, ce sont des gens qui ont une expérience politique avérée qu'on doit respecter. Ils n'ont pas un mandat impératif. Ils votent en âme et conscience et ils l'ont fait. Et ceux qui les considèrent comme des gens qui ont été manipulés, je crois qu'ils doivent avoir un peu de considération pour les députés provinciaux de l'Équateur pour qui j'ai beaucoup de respect parce qu'ils ont posé leur acte en âme et conscience. Ça, c'est un. Deuxièmement, je ne pense pas que je suis en train de présenter le programme du gouvernement provincial. Je relevais parmi les priorités. J'ai dit qu'il y en a beaucoup et même écrasantes. Les priorités que je considère comme priorité urgente. Et lorsque vous avez fait passer la séquence de mon intervention, vous n'avez pas fait allusion au fait que je veux que pendant le temps de mandat que j'ai, mettre les gens au travail. Mais le mettre au travail, ça ne veut pas dire qu'il faut le mettre dans le bureau de l'État. C'est le pêcheur à la pêche, c'est l'agriculteur à l'agriculture, c'est le chasseur à la chasse, et c'est ça le travail que j'entends pour que le peuple équatorien s'y adonne, d'une part. Et d'autre part, c'est faux de me dire qu'il n'y a pas de route dans le sud de l'Équateur. Mais c'est quelqu'un qui ne connaît pas la géographie de l'Équateur. Mais je programme une tournée, madame, à travers toute la province, en commençant par le district de l'Équateur. Je passerai par Bikoro pour arriver jusqu'à Bassankoussou. Je quitterai Bassankoussou pour arriver à Boende. Je partirai de Boende pour arriver à la Mongala par Bongandanga. Vous direz que par là, je ne peux pas passer. Il y a des routes. Pas plus tard qu'il y a quelques jours. Mais il y a une délégation qui est partie du chef-lieu de la province par route et qui se trouve aujourd'hui à Bokungu. L'honorable Sipi, qui est député national, le sait, et je suis en communication avec lui tous les jours. Ils ne sont pas partis par avion. Je leur ai dit que je dois connaître ma province avec ses difficultés. Donc c'est faux, madame, de faire croire à l'opinion qu'il n'y a pas de route au sud de l'Équateur, qu'il n'y a que les eaux. Ça, c'est du mensonge, madame. Et d'autres, pour troisième point, je vais vous dire ceci. Madame, quand je vais dévoiler tous les contenus du programme que l'Assemblée provinciale attend, mais critiquez alors le programme et je donnerai raison à maître, je n'ai pas limité ce qu'il doit faire, mais j'ai dit, je fais ce que je considère comme priorité des priorités, priorité urgente. Mais je ne peux pas parler de l'Équateur sans parler de l'agriculture. Pourquoi le gouvernement central a mis à la disposition de chaque province une somme de 5 milliards de francs congolais, dont la province de l'Équateur, pour booster la production agricole. Et la province de l'Équateur, je l'ai toujours dit, c'est une province agricole.
par excellence.
Monsieur le gouverneur, on va
et
parler.
Dit, vous attendrez dans mon programme, madame, que il faut réveiller les grandes unités de production agro-industrielle qui dorment sous l'effet des mesures de la zarianisation. Ça sortira dans mon programme, je vais dévoiler à l'Assemblée provinciale. Ce n'est pas dans ce laps de temps de quelques 45 minutes que je vais déballer tout le programme du gouvernement, mais je dis les priorités urgentes que je vis au jour le jour, que la population de l'Équateur vit au jour le jour. Il n'y a pas de développement sans énergie, madame. Comment vous pouvez avoir un développement sans énergie? Il n'y a pas de développement sans accès à l'eau potable.
Merci, merci, monsieur le gouverneur.
Quelqu'un qui n'a pas accès, c'est quelqu'un qui n'a pas accès
merci,
à l'eau potable.
Merci, monsieur le gouverneur.
Vous dites qu'il est dans l'aisance, dans
merci,
le bien-être.
Merci, monsieur le gouverneur.
Non,
on va vous redonner la parole.
Développement.
Monsieur le gouverneur, excusez-moi, je suis obligée de vous couper. Le temps pour moi de donner la parole à Alexis Linga. Un mot sur le gouvernement provincial, la formation de ce gouvernement provincial qui compte 10 ministres et 6 commissaires provinciaux.
Oui, merci beaucoup, madame. J'ai annoncé au début de mon intervention que c'était un gouvernement anticonstitutionnel, parce que l'article 198 de la Constitution, point 5, c'est-à-dire alinéa 5, dit que le nombre de ministres provinciaux ne peut jamais dépasser 10. Alors, on veut créer des jeux de mots. Ministres provinciaux, commissaires provinciaux, et on dit que les commissaires provinciaux sont des experts pour appuyer la mission de ministre. Et tantôt, on voit là-bas qu'il y a de portefeuilles différents, n'est-ce pas, accordés à ces commissaires provinciaux. Donc, nous disons que le gouverneur a créé 10 postes de ministres provinciaux. Qu'est-ce qu'il veut donner comme définition des commissaires provinciaux? Lorsque nous faisons allusion à quelques études juridiques, on dit que les commissaires du gouvernement sont ceux-là, ce sont des experts qui sont mis à la disposition des ministres qui les accompagnent pendant les débats parlementaires. Donc, on ne peut pas créer des portefeuilles différents. On accorde ça à d'autres, disons, à des personnalités appelées commissaires du gouvernement. Et puis les ministres provinciaux qui ont aussi d'autres portefeuilles différents de ceux-là. Donc nous disons que le monsieur le gouverneur, qui est un juriste que je respecte, a péché contre la Constitution de la République. Donc c'est un gouvernement qui est illégal. C'est pourquoi nous avions dit d'entrée de jeu que...
Un gouvernement illégal qui compte un membre du MLC quand même.
Ah voilà, merci beaucoup pour m'avoir suscité cette question. Je vous dis, le MLC n'a pas un ministre dans ce gouvernement. Parce que le ministre MLC dans un gouvernement...
Donc
dans
M. David Diaz-Diambo, ça n'est pas du MLC.
Il est allé à titre individuel, madame. Je vous parle sous une scientifique contrôlée. Donc le MLC n'a jamais fait un accord d'un gouvernement de coalition au niveau de l'exécutif provincial de l'Équateur. Donc tout à l'heure, mon confrère Sylvain disait qu'il y a cohésion dans ce gouvernement au niveau de la province Équateur. Mais je dis que c'est sur mesure, parce que s'il y a cohésion, c'est peut-être l'ensemble disons, des partis politiques de MP qui se sont retrouvés, et qu'on ne dise pas qu'il y a cohésion au niveau de ce gouvernement à l'Équateur. J'insiste, il n'y a pas un accord entre le parti politique MLC qui dispose d'un nombre important de députés provinciaux à l'Équateur. Merci. Donc celui qui est allé et que vous avez nommé M. Yambo est là purement à titre individuel, et nous mettons quiconque à défi pour prouver qu'il y a un accord entre la direction du MLC au niveau national.
Merci Alexis Linga, Gilbert Kiatsingé. Un mot sur la formation de ce gouvernement qui compte 10 membres et 6 commissaires provinciaux. Commissaires provinciaux, c'est quand même une nouveauté, hein, parce qu'on sait que dans les provinces, on n'a que 10 ministres provinciaux.
Oui, mais merci beaucoup. Je crois que le principe qui régit les provinces, c'est d'abord la libre administration. La libre administration et la constitution à délimiter le nombre de ministres. Donc, pour la Constitution, l'article 198 plus exactement, le gouvernement provincial ne peut pas compter plus de 10 ministres provinciaux. Alors la question qui se pose, parce que nous n'avons pas encore les attributions des commissaires, est-ce que ces commissaires ont rang de ministres? Est-ce que ce sont des simples collaborateurs, un peu comme dans certaines provinces où on trouve des secrétaires exécutifs du
gouvernement? Ils ont rang de ministres?
Je ne sais pas.
Ils ont rang de ministres.
Ils peuvent avoir rang de ministres, même traitement, mais ils ne sont pas des ministres. Et donc, au nom de la libre administration, je pense que chaque province peut utiliser son personnel humain comme il l'entend, à condition de ne pas avoir plus de 10 ministres. Parce que il y a d'autres personnalités qui occupent d'autres postes qui ont le rang de ministre. Par exemple, dans les régies financières, il y a les directeurs généraux qui ont le même rang que les ministres. C'est vraiment un principe sacré en matière de décentralisation, l'autonomie de gestion du personnel. Moi, je ne peux pas reprocher à l'actuel gouverneur de chercher la cohésion au niveau de la province, parce que j'ai été témoin de tout ce qu'il y avait comme conflit. Et si il a pensé que, comme manager ici, il mettrait terme à tout ce qu'il y avait comme querelle, tout en restant respectueux de la Constitution par rapport au nombre de ministres, je pense que on ne peut pas tellement lui en vouloir. Nous voulons seulement voir booster le développement, parce que la province a un besoin urgent de reprendre vie, parce que franchement le niveau de sous-développement à l'Équateur est tellement profond que nous aimerions vraiment qu'il y ait des actions à impact visible dans l'immédiat, donc qu'on définisse le programme prioritaire qui soit à impact visible.
Voilà. Merci Gilbert Kretinger. Monsieur le gouverneur, il nous reste au moins de 3 minutes pour mettre fin à cette émission. Je vais vous demander de me donner des réponses brèves, s'il vous plaît. Alors, il y a une question qui se pose ici. Les commissaires provinciaux, ils sont qui finalement? Gilbert Kretinger.
J'ai oublié son nom.
Maître Kretinger.
Oui, il y a le principe de la libre administration. C'est un principe sacré. Pour la décentralisation, je n'ai pas nommé 16 ministres, regardez mon arrêté. J'ai nommé 10 ministres et la Constitution dit qu'on ne peut pas avoir plus de 10 ministres, n'est-ce pas?
Oui, les commissaires provinciaux.
Je crois que la réponse est donnée par l'expert de la décentralisation.
Le rôle des commissaires provinciaux, monsieur le ministre.
Je voudrais dire que aujourd'hui, le problème de développement de l'Équateur se situe au-delà des clivages partisans, au-delà des clivages ethniques, au-delà des clivages administratifs. Et c'est en fonction de cela que les députés provinciaux de l'Équateur ont eu un élan, une dynamique spécifique en disant « Sauvons l'Équateur ».
Merci.
Qui met tous les députés, quelle que soit leur coloration politique, ensemble pour pouvoir relancer.
Merci, monsieur le gouverneur.
Un sursaut de développement de l'Équateur.
Merci, monsieur le gouverneur. On constate que dans votre gouvernement, vous n'avez pas respecté la parité. Pour finir, monsieur le gouverneur, rapidement, 30 secondes.
Merci, madame. Il y a une femme, une brave, et je crois que elle pèse beaucoup et elle pourra faire l'affaire.
Merci, monsieur le gouverneur. Alexis Lenga, en conclusion, 30 secondes.
Oui, merci beaucoup. Je vais conclure par dire que le gouverneur a eu raison de dire ce qu'il a dit. Il a tout simplement fait le jeu des mots. Il y a des ministères, il y a des portefeuilles donnés à des ministres, enfin des commissaires provinciaux différents de ceux de ministres nommés. Ça, c'était un jeu des mots. Vous savez pourquoi, quand on parle de limitation, c'est pour éviter un budget grand pour faire partir des fonds à la province.
Alexis
Mais brièvement, je vais aller pour vous dire que M. Koyagelo était vice-premier ministre, il était secrétaire exécutif des MP, il était tout meilleur, rien fait pour l'Équateur.
Merci,
il est allé juste pour installer le PPRD.
Gilbert Kiatine, excusez-moi, voilà. Alexis Bema, voilà. Gilbert Kiatine, en 10 secondes.
Je pense que la province de l'Équateur a besoin de souffler le calumet de la paix. Il est temps que l'on commence vraiment à construire la province, elle en a besoin. Et je souhaite plein succès au gouverneur qui a été élu.
Merci Gilbert Kiatinger, voilà. C'est la fin de cette émission. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.